Décarboner l'acier, c'est donc pour l'industriel sacrifier un outil connu et une filière en constante optimisation depuis plus d'un siècle pour entrer en territoire plus incertain. Bonjour, je suis Guillaume Stechmann, ingénieur conseil métaux stratégiques et nouveaux matériaux au Crédit Agricole. Et aujourd'hui, je vais vous présenter à travers ce podcast les enjeux liés à la décarbonation de l'industrie sidérurgique et donc à la production d'acier vert. Commençons par un état des lieux rapide. Produire une tonne d'acier par la voie au fourneau, c'est produire 2 tonnes de CO2. Bien que cela puisse paraître conséquent, il faut bien noter que l'acier fait partie des bons élèves parmi les métaux. Ainsi, par exemple, on considère que l'aluminium est bas carbone, en dessous de 4 tonnes de CO2 par tonne d'aluminium, c'est 2 fois plus. Cependant, c'est à l'échelle du volume de production mondiale que le problème devient significatif. Près d'1,5 milliard de tonnes d'acier sont produites chaque année par cette voie, faisant de l'industrie sidérurgique la seule responsable de 7% des émissions annuelles de gaz à effet de serre. Dans un contexte, notamment en Europe, où le coût du CO2 devient un aspect financier majeur pour l'industrie lourde, décarboner l'acier, c'est d'une part s'attaquer frontalement à un pan important de nos émissions de CO2, mais d'autre part, plus prosaïquement, une nécessité économique majeure. Comment parler de décarbonation sans parler de recyclage? Il est ici un écueil qu'il convient d'éviter. Le recyclage, bien qu'essentiel à cette transition, ne sera pas en mesure à lui seul de décarboner l'industrie sidérurgique. En effet, la durée de vie des produits en acier est variable, mais reste de l'ordre de plusieurs dizaines d'années. C'est-à-dire qu'à un instant T, quand bien même le stock total de ferraille disponible serait parfaitement recyclé, il ne pourrait couvrir qu'une production d'acier équivalente à celle d'il y a 30 ou 40 ans. Or, la production d'acier mondiale étant en croissance continue, il persiste un fossé de l'ordre du 1 milliard de tonnes entre la ferraille disponible et celle qui serait nécessaire à une sidérurgie en parfaite boucle fermée. Ainsi, la décarbonation de l'acier doit adresser un problème majeur, bien plus vaste et plus complexe que celui du recyclage. Comment produire de l'acier primaire, c'est-à-dire à partir du minerai, via des procédés à faible émission de CO2? Avant d'entrer dans le cœur technologique du sujet, il est primordial de comprendre pourquoi la production d'acier est aussi émettrice de gaz à effet de serre. Le fer se trouve à l'état naturel dans le minerai, sous forme d'oxyde. C'est un mélange rougeoyant de fer et d'oxygène, un voisin de la rouille que vous connaissez tous. Pour 1 kg d'oxyde de fer pur, on retrouve environ 700 g de fer pour 300 g d'oxygène. La transformation du minerai en acier va nécessiter l'élimination de cet oxygène. C'est ce que l'on appelle la réduction du minerai, où un agent réducteur sera utilisé pour venir arracher cet oxygène au fer, le laissant ainsi sous sa forme métallique. Le sidérurgiste a 3 grandes exigences quant au choix de l'agent réducteur. Il doit être disponible en grande quantité et donc peu cher, il doit permettre une réduction à température raisonnable et il doit limiter la formation de coproduits qui devront être stockés ou recyclés. Ainsi, l'élimination sous forme d'oxyde gazeux est toujours privilégiée. Le carbone répond parfaitement à ces 3 critères. Il est relativement économique et abondant et il permet une réduction entre 800 et 1200 degrés qui ne libère que du CO et du CO2 sous forme gazeuse, qui ne nécessite, ou plutôt ne nécessitait pas, de stockage jusqu'à présent. C'est donc autour de ce couple, minerai de fer carbone, qu'a été construit le modèle historique de l'usine sidérurgique, centrée sur le haut fourneau. Cet outil n'est ni plus ni moins qu'un réacteur de réduction, où ces 2 éléments se mélangent pour former de la fonte liquide, donc du fer métallique, et du CO2, dans les proportions que l'on a décrites, et qui sont de l'ordre de 2 tonnes de CO2 par tonne d'acier. On perçoit ici 3 options avantageuses qui permettraient de limiter l'impact environnemental du procédé. La première reviendrait à capter ce CO2 en sortie de haut fourneau, dans ce que l'on appelle le gaz de Goellard. Ce procédé est déjà testé à l'échelle du pilote industriel dans quelques aciéries, à l'image d'ArcelorMittal Gand, en Belgique, où l'usine pilote Stilanol capte depuis fin 2023 une partie du CO2 émanant des hauts fourneaux pour le transformer en éthanol, ensuite revendu à l'industrie chimique. Cependant, le principal frein à cette technologie est le volume de CO2 qu'il serait nécessaire de capter, de retraiter ou de stocker, afin d'abaisser significativement l'empreinte climatique de l'industrie sidérurgique. L'Agence internationale de l'énergie estime ainsi que l'équivalent de 400 millions de tonnes de CO2 devront être captées annuellement par les aciéristes à horizon 2050 pour satisfaire une trajectoire de développement durable. Des quantités astronomiques, au vu des capacités existantes, encore anecdotiques, qui sont 10 fois moins importantes, toute industrie confondue. La seconde option est celle de la circularité du carbone. Utiliser du carbone issu de la biomasse végétale en remplacement du coq issu du charbon permet en effet de revendiquer un bilan carbone neutre. Là encore, le besoin se heurte à la mise à l'échelle industrielle. Avec un ordre de grandeur des besoins en carbone de l'ordre de 500 kg par tonne de fonte, une aciérie comme celle d'ArcelorMittal Dunkerque nécessiterait plus de 3 millions millions de tonnes de carbone biosourcé par an. À cela s'ajoute la question de la qualité de ces sources carbonées, afin de garantir un usage transparent en termes de maîtrise du procédé industriel. On comprend donc que cette option devra rester cantonnée à un apport d'appoint, limitant ainsi son potentiel de décarbonation. Cependant, ces deux options présentent un avantage non négligeable, puisqu'elles permettraient aux aciéristes de conserver un environnement industriel connu et maîtrisé, au centre duquel le haut fourneau resterait sur son piédestal. La troisième option, plus ambitieuse, consisterait à attaquer le problème en son cœur, en remplaçant le carbone par un autre agent réducteur. Le besoin se heurte ici à une contrainte physique, au sens thermodynamique du terme. La liste des candidats crédibles à la substitution du carbone est maigre. Maigre, oui, mais pas vide. Un élément en particulier, l'hydrogène, apparaît comme particulièrement avantageux. Il est en effet capable de réduire le minerai de fer entre 750 et 1000 degrés, c'est-à-dire à une température où le fer reste encore à l'état solide, tout en ne libérant que de la vapeur d'eau, inoffensive, lors du processus de réduction. Le revers de la médaille est bien sûr le coût et la disponibilité du gaz. Pour une tonne de fer réduit, environ 50 kg d'hydrogène seront nécessaires. Rapporté à la production d'acier primaire en Europe, c'est-à-dire en excluant la partie provenant des ferrailles, le chiffre devient vertigineux. Environ 4 millions de tonnes d'hydrogène supplémentaires seraient nécessaires chaque année, soit presque 40% de la capacité de production européenne actuelle, toutes applications confondues bien sûr. Des chiffres abstraits qui, une fois traduits, dévoilent le besoin sous-jacent de déployer 50 000 éoliennes ou une trentaine de réacteurs nucléaires en Europe pour espérer satisfaire la seule production d'hydrogène alors indispensable aux aciéristes. Il est en effet nécessaire de rappeler que l'acier produit ne sera toujours aussi vert que l'hydrogène dont il émane. Du point de vue technologique, la réduction du minerai de fer par l'hydrogène est en bonne voie. La production de ce que l'on appelle le DRI, Direct Reduced Iron, et de son cousin le HBI, Hot Briquetted Iron, est déjà établie à l'échelle industrielle en utilisant comme gaz réducteur du gaz naturel, qui n'est ni plus ni moins qu'un mélange de carbone et d'hydrogène, représentant donc une étape intermédiaire entre réduction carbonée et décarbonée. La transition vers le 100% hydrogène est en marche, avec des projets à l'échelle industrielle à Hambourg, ArcelorMittal, et en construction à Boden, H2 Green Steel. Nous l'avons dit, à l'inverse de la fonte sortant d'un fourneau, le DRI est quant à lui produit à l'état solide. Il est donc nécessaire d'introduire une étape supplémentaire pour le fondre et procéder à son élaboration dans des réacteurs dédiés. Là aussi, déterminer l'option technologique la plus pertinente n'est pas chose facile. Le four à arc électrique, EAF, déjà bien connu des sidérurgistes car il permet le recyclage de la ferraille en grand volume, apparaît comme un candidat sérieux. Cependant, pour garantir un fonctionnement optimal, il nécessite la production d'un DRI relativement propre, au sens métallurgique du terme. Sans rentrer dans des détails techniques, il faut comprendre ici que la gamme de minerais pouvant produire cette qualité de DRI est très restreinte. D'autres réacteurs sont ainsi envisagés pour participer à cette transition afin de garantir un accès à une gamme de minerais plus large. Une dernière option de décarbonation que nous n'aborderons pas aujourd'hui est celle de la rupture technologique, avec par exemple l'électrolyse de l'oxyde de fer, à l'image de ce qui est fait pour l'aluminium, ou la réduction fusion directe, qui sont encore à un stade pré-industriel. Ces procédés innovants, s'ils deviennent un jour industriels, n'impacteront l'industrie sidérurgique qu'à un horizon lointain et ne constitueront donc pas la clé de voûte du processus de décarbonation qui s'engage actuellement. Pour résumer, on comprend ainsi que remplacer le carbone par l'hydrogène revient fondamentalement à électrifier l'aciérie traditionnelle, que ce soit pour produire son hydrogène ou pour fondre son DRI. Cette transition, aussi bien technologique qu'économique, est l'objet d'intenses développements et d'incertitudes profondes. Pourra-t-on, par exemple, produire un acier de qualité automobile en grande quantité à l'aide de ces nouveaux procédés? Les qualités de minerais nécessaires à la fabrication de ce DRI seront-elles largement disponibles et donc abordables? Que faire si l'hydrogène venait à manquer ou n'était pas économiquement viable? Autant de questions auxquelles l'industrie devra répondre dans les prochaines années. En conclusion de ce podcast, il faut ainsi retenir que décarboner l'acier, c'est donc pour l'industriel sacrifier un outil connu et une filière en constante optimisation depuis plus d'un siècle pour entrer en territoire plus incertain. Des options concrètes, telles que notamment la réduction par l'hydrogène, sont en bonne voie pour initier ce nouveau cycle industriel dès 2025. Malgré tout, on comprend également que la tentation du haut fourneau reste grande, quand elle n'est pas contrainte par une politique de décarbonation incitative. En 2023, près de 280 millions de tonnes de nouvelles capacités annuelles de production par haut fourneau étaient annoncées ou en construction, la quasi-totalité en Asie. Des installations dont la durée de vie peut dépasser les 50 ans et qui resteront donc présentes dans le paysage sidérurgique bien au-delà de 2050. Mis en face de ces options complexes, le recyclage n'apparaît que plus attractif. Bien qu'il ne puisse à lui seul transformer l'industrie, cette option technologiquement plus confortable incite les sidérurgistes à consolider leur approvisionnement en ferraille, que ce soit en qualité ou en quantité, afin de pouvoir continuer à répondre aux exigences de leurs clients. Là aussi, le marché est en pleine mutation, et comme pour l'hydrogène, la bataille n'en est qu'à ses prémices.